Regardez voir. La photo sur France Inter.
Dans Regardez voir aujourd'hui, Yann Arthus-Bertrand, un photographe qui n'a pas besoin de publicité. Avec 4 millions d'exemplaires vendus, La Terre vue du ciel est un livre qui a fait des petits. Le Maroc vu du ciel, Paris vu du ciel, etc. Il a publié plus de 80 livres. Il a créé la fondation Good Planet, reconnue en 2005 organisation d'utilité publique. Il est nommé ambassadeur de bonne volonté aux Nations Unies. Il fait des films. Après notre rencontre, nous avons appris qu'il entre comme censeur au conseil d'administration de LVMH. Il a 74 ans. Des écoles portent son nom. Mais quand il est invité dans ces écoles, comment, je le cite, parler aux enfants d'un monde qui s'effondre ? J'ai l'impression d'être un écolo perdu, disait-il au journal Le Monde en avril. Alors peut-être pourrait-il parler aux enfants de photographie ? C'est ce que nous allons faire cet après-midi avec cet immortel, puisqu'en 2006, il est élu membre de l'Académie des Beaux-Arts. Lucien Clergue et Yann Arthus-Bertrand sont les premiers représentants de la section photographie à entrer dans cette institution. Depuis ont été élus Sébastiao Salgado, Bruno Barbet et Jean Gomi. Alors bienvenue donc dans Regardez voir à Yann Arthus-Bertrand.
Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
Yann Arthus-Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être immortel ?
J'ai pris ça comme une blague au début. Alors, je ne connaissais pas l'académie, je n'avais même pas le droit que j'avais le droit à un costume d'académicien, c'est une espèce de déguisement incroyable, avec une épée. Et en fin de compte, je suis ravi d'y être. Les gens sont un peu âgés, un peu comme moi. Et ça me permet aussi de rencontrer des gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés. J'ai dû assez aimer Garouste, par exemple, le peintre que je connaissais pas du tout, ou des architectes. Voilà, on est une quarantaine. Il y a des danseurs qui vont, des chorégraphes qui vont danser. Maintenant, une nouvelle section qui va s'ouvrir. Et je suis ravi d'être là. Voilà.
Et au sein de la section photographie, quel est le rôle de l'académicien ?
Bien, par exemple, on a négocié avec un mécène chinois le plus gros prix de la photographie jamais donné. Et il va avoir un prix de 120 000 euros qui va être distribué une fois tous les deux ans à un photographe. Et c'est nous qui nous occupons de ce prix. Il y a aussi un autre prix qui est organisé par Marc de l'Archarrière où chaque année on donne pour un jeune photographe. Donc notre rôle un peu c'est d'aider la photographie en fin de compte, d'aider les jeunes qui démarrent et puis de mettre en valeur la photographie tout simplement.
D'ailleurs, à ce titre-là, la photographie est considérée comme un art. Alors est-ce que vous vous sentez artiste, Yann Arthus-Bertrand ?
Pas du tout. Je me sens journaliste. Je me sens plus témoin de mon époque qu'un artiste. C'est-à-dire que je ne transforme pas ce que je vois. Donc, je ne suis qu'un témoin de ce que je vois, que je reproduis mécaniquement, chimiquement. Voilà. Alors, bien sûr, il y a toujours un côté artistique dans ce qu'on fait, que je ne nie pas, mais je me sens beaucoup plus journaliste, photographe qu'artiste, c'est vrai.
On va revenir bien sûr à votre métier de photographe. Alors vous êtes né dans le 16e, vous avez vécu à Paris jusqu'à vos 20 ans, vous avez fait plein d'écoles, apparemment vous n'étiez pas du tout un bon élève. Ou en
comme
tout cas,
souvent les photographes.
Voilà. Vous êtes l'aîné de 4 sœurs et un frère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a relié quand vous étiez enfant à la nature et à la photographie ?
Alors à la nature, pas du tout. Parce que c'est vraiment une passion que j'ai découvert quand j'avais 20 ans. Mais la photographie, oui, mon père était un fou de photos et il faisait beaucoup de voyages. Il allait un peu partout et il ramenait beaucoup de diapositives, c'était à l'ancienne, quoi. Et il m'avait ramené un Canon Dial, qui est un appareil qui faisait un format moitié 24-36, que j'ai encore d'ailleurs, avec lequel j'ai commencé. Et certainement, le goût de la photographie, voilà, ça vient un petit peu de lui, certainement.
Et la nature, elle arrive plus tard quand vous vous installez dans le centre de la France,
oui,
dans l'Allier.
Oui, exactement. Oui.
Là, déjà, vous avez une âme d'entrepreneur puisque vous avez 20 employés.
Oui.
20
mais
employés
j'ai une histoire
et
incroyable.
Deux restaurants.
J'ai une histoire incroyable qui, à cette époque-là, était plus compliquée qu'aujourd'hui. Je tombe amoureux de la mère de mon meilleur ami. Et donc, je pars chez elle. Elle avait 22-23 ans de plus que moi et je vis une période magique, très amoureux. Dans une propriété, très peu d'argent.
C'est voilà. Un parc à l'époque.
Oui,
non,
oui, c'était un parc très grand. Et on crée avec elle une réserve zoologique ensemble. C'est là où je découvre vraiment ma passion. Et j'étais passionné par les animaux. Et mon rêve était de travailler comme Jane Goodall, vous savez, avec cette femme qui étudie les chimpanzés, de faire la même chose avec les lions. J'ai dû élever une dizaine de lions, 4-5 tigres, des guépards, pas des guépards, mais des jaguars, voilà. Et j'adorais ça. Et mon rêve était, je me suis dit, voilà, c'est idiot, bon, au bout de 10 ans, le couple n'a pas tenu, et j'avais envie de partir en Afrique, je veux devenir scientifique. Et je pars avec ma femme, Anne, et on part tous les deux faire une thèse sur le comportement des lions au Kenya, et je découvre la photographie à ce moment-là.
Et nous allons découvrir, Yann Arthus-Bertrand, votre premier métier en Afrique, en faisant une sorte de voyage sonore dans le temps. Nous sommes le 27 janvier 1980.
Des voyages pas comme les autres, des voyages à faire rêver aujourd'hui, par exemple, pour aller à la découverte des animaux sauvages au Kenya et en montgolfière. Christiane Paulfort a rencontré le guide de l'expédition, Yann Arthus-Bertrand, qui est aussi photographe animalier.
On part le matin très tôt dans le Maasai Mara, qui est une des plus belles réserves du Kenya. C'est montagneux, des petites collines, avec surtout une magnifique rivière qui traverse la réserve, qui est bourrée d'hippopotames. On part à 6h30 du matin, au lever du jour. On part dans la montgolfière et on s'élève entre 20 mètres et 200 mètres.
Ah, sans bruit.
Sans bruit. C'est-à-dire on fait un peu de bruit dès qu'on chauffe, l'air. Et dès qu'on arrête, on glisse au-dessus des animaux. On suit la rivière pendant environ 3-4 km et on voit tous les hippopotames qui rentrent et qui sortent de l'eau. Tous les animaux qui viennent boire, les éléphants, les grands troupeaux de migration de gnous. Et c'est une vision fantastique parce que d'en haut, on peut voir cette grande masse de gnous qu'on ne peut sans pas voir de voiture. Nous prêtons à tous nos invités des téléobjectifs et des boîtiers. Et dès qu'on a atterri, on a tout un personnel Maasai qui apporte le petit déjeuner et on prend le champagne dans la brousse.
Nous sommes en 1980, Yann Arthus-Bertrand,
drôle,
vous avez quelques 30 ans.
J'avais pas du tout la même voix.
Bah, si.
Ah oui, vous trouvez ?
Ah oui.
C'est vraiment une période où j'étais heureux. Et vous savez, il y a des moments où on est heureux dans sa vie, mais on ne le sait pas. On n'a pas pris conscience. J'avais la vie que je rêvais, quoi. Land Rover, le grand chapeau, Daktari, quoi, l'espèce d'aventurier vivant en Afrique. J'ai passé 3 ans incroyables, incroyables.
Mais ce départ au Kenya, il est vraiment inspiré par des femmes comme
Jane Goodall.
Puis Diane Fossé, peut-être.
Je connaissais pas Diane Fossé, mais j'avais lu le livre de Jane Goodall qui avait fait Les chimpanzés et moi, qui était un livre formidable. Et Diane Fossé a écrit plus tard. Mais j'ai rencontré Diane Fossé par la suite. J'ai même été le dernier photographe à l'avoir photographié.
Eh bien oui.
Voilà.
C'est pour ça qu'en 86, quand elle meurt, vous êtes à nouveau sur France Inter, vous réagissez. En fait, vous parlez le 29 décembre 1985.
Spécialiste des gorilles, c'est un drôle de métier, surtout pour une femme. C'était pourtant celui qu'exerçait Diane Fossé, une américaine de 53 ans qui s'était prise de passion pour les gorilles et vivait pratiquement en leur compagnie dans les montagnes du Rwanda. L'ami des gorilles vient d'être tué, sans doute par des braconniers. Depuis 25 ans environ, Diane Fossé vivait dans des conditions invraisemblables et les Rwandais l'avaient appelée la vieille femme qui vit sans homme dans la forêt. Le photographe Yann Arthus-Bertrand avait rencontré la femme aux gorilles il y a quelques semaines et il raconte à Bernard Majotte de Radio France Internationale.
Elle était complètement folle de son travail, était passionnée par son boulot. Il est vrai qu'elle avait un très mauvais caractère et qu'elle n'était pas très aimée par les braconniers puisqu'elle passait son temps à avoir ses propres mercenaires, ses propres gardes, qui sont des Africains, à surveiller la réserve. Et elle était très agressive en parole. Elle pensait que les Africains avaient peur d'elle et qu'elle ne risquait rien.
C'était donc en 1985, Yann Arthus-Bertrand, vous l'aviez vue avant sa mort,
bien
c'est
sûr,
cela.
J'ai passé 3 semaines incroyables avec elle. Je récupérais les crottes des gorilles qu'elle m'avait demandé dans une boîte, parce qu'à travers les crottes, elle les analysait, elle voyait quels groupes que j'avais vus. Et un jour, il y a un énorme mâle qui s'est endormi en mettant sa tête sur mon pied en ronflant. Et j'ai pleuré de joie. Je me disais, c'était incroyable d'être photographe. Vous savez, quand on est photographe animalier, on court après les animaux. Et d'un seul coup, les animaux viennent à vous. Mmh. Et ont confiance en vous. Et ça, c'est un moment inouï, tout seul. Petit bonhomme, petit blanc, au milieu de cette forêt immense, il pleuvait, et puis avec une trentaine de gorilles autour de vous, vous êtes tout seul là. Et j'ai raconté une petite histoire, j'avais un mal au dos, je m'étais coincé une vertèbre, et il y a une parade d'intimidation, il y a un gorille qui m'a donné un grand coup dans le dos, qui a remis ma vertèbre en place.
Ah
voilà.
Oui, il a tout remis d'équerre.
Voilà.
Avant d'écouter un peu de musique qui va nous enchanter, juste cette photo là qui est devant moi, une photo en noir et blanc, mm-hmm. qui est très ancienne. Il s'agit dites-moi de quoi il s'agit d'ailleurs.
Ça, c'était le lion qui s'appelait Hook, c'est le lion que j'étudiais, et qui se fait mordre les fesses par un petit lionceau, et qui pousse un cri. Alors, c'est une photo qui est très connue, qui était en couleur. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à faire plus de noir et blanc, je trouve qu'elle marche mieux en noir et blanc. Mais c'est une photo que j'adore d'ailleurs. C'est peut-être ma photo préférée, en fin de compte. C'est quand je l'ai faite, J'avais 34 ans. Je croyais aussi à un monde meilleur. J'avais pas ce pessimiste de raison que j'ai aujourd'hui. Par exemple, les lions, quand je les étudiais, c'était 200 000. Aujourd'hui, ils sont 20 000.
Oui.
Voilà. Donc, il y a aussi une côté d'un paradis perdu dans ces images. Et c'est ce petit lionceau qui mord les fesses de son père. Voilà, tout simplement.
Ah, c'est le père, oui.
Mais c'est le père. Alors, il faut savoir.
Il a l'air d'avoir mal parce qu'il ouvre la gueule.
Non, mais
très grand,
vraiment,
comme ça.
Là, il a vraiment mal. On voit vraiment qu'il lui mord les fesses et qu'il pousse un cri. Alors, les lionceaux, souvent, ont très peur des mâles, tout des mâles étrangers, parce que le territoire appartient aux lionnes, où elles vont passer toute leur vie. Et le lion n'est qu'un autre de passage qui arrive et qui se bat pour prendre la place. Parce que quand il est avec des lionnes, il va plus chasser. C'est les lionnes qui vont chasser. Et il va se nourrir sur elle parce qu'il est plus costaud, il ne chassera plus, il défendra le territoire. Mais surtout, quand un mâle arrive, il va souvent tuer les lionceaux des autres mâles afin que les lionnes redeviennent en chaleur. La première mortalité des lionceaux, c'est malheureusement les lions mâles. Voilà. When you told me the other day that you wanted to come back to stay and soothe me. Your words, they soothed me, baby. Then I heard from one of your guys, all you told me really was a lie of me. Darling, you
Chalala, c'est un extrait de l'album d'Alani qui sortira fin août.
Regardez voir. Brigitte Patient. La photo sur France Inter.
Cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Yann Arthus-Bertrand. Yann Arthus-Bertrand, vous êtes réalisateur de longs métrages. En dehors de la nature, de la planète dans laquelle vous vous immergez depuis si longtemps et que vous avez photographié, quelle photographie aimez-vous ?
Ma photo préférée, c'est la photo de mes petits-enfants sur mon téléphone. C'est très clair. C'est peut-être la seule photo que je garderai avec moi. Il y a une photo que que j'aime beaucoup. Je collectionnais, j'ai arrêté, les photos emblématiques. L'arrivée, le débarquement de Capa, la petite fille qui pleure au Vietnam. Et voilà, une photo de Fidel Castro. C'est ces grandes photos que tout le monde connaît. La photo de Douaneau, du baiser de Notre-Dame, la photo de Cartier-Bresson connue. J'en ai quelques-unes. Mais c'est des photos qui ne sont pas numérotées. Je me fiche complètement qu'elles soient reproduites. Et aujourd'hui, tous les photographes, et moi c'est un peu le problème que j'ai, je n'aime pas numéroter mes photos. Je pense que...
Vous ne le faites toujours pas.
Je le fais dernièrement parce que j'avais besoin d'argent et que je, pour financer mon studio et ce que je fais avec mes assistants. Mais aujourd'hui, je n'aime pas. Je pense que les photos de la Terre, par exemple, que je fais, j'ai l'impression qu'elles sont à tout le monde, qu'elles ne sont pas à moi. J'étais là au bon moment et qu'elles ne m'appartiennent pas et que j'aime penser. Et d'ailleurs, j'avais proposé au Salon de la Photo à Paris d'avoir une imprimante et de vendre des photos 10, 20, 30 euros directement aux gens qui passaient. Alors, c'est complètement l'opposé du marché de la photographie aujourd'hui. Mais je pense que la photo est un art populaire et que j'aime penser qu'un étudiant peut s'acheter une photo à 20 euros d'Arthus Bertrand signée. Ça ne me dérange pas du tout. J'ai pas cette notion de collectionneur et les photos que j'aime et la photo que je préfère, alors que c'est une photo que je n'ai pas malheureusement. Et pourtant, j'ai rencontré la veuve de ce photographe qui s'appelle Larry Bureau. C'est une photo au Vietnam qui est très connue. Ça a été pilonné d'une façon incroyable. Il y a de la boue. C'est vraiment la défaite. Et il y a un soldat qui tend les bras, qui est blessé à l'œil. Il y a un autre qui arrive. Ils se tendent les mains l'un vers l'autre. C'est une photo très émouvante. Rien que d'en parler, ça m'émeut. C'est une photo qui parle du racisme. C'est une photo qui parle de la bêtise de la guerre, qui parle de la défaite, qui parle du courage, de l'amitié. Et cette photo, pour moi, est un symbole. Et ce qui est étonnant, c'est que ce photographe, Larry Burroughs, c'est lui qui était assistant d'un laboratoire à Londres au moment du débarquement. C'est lui qui a brûlé les photos de Capa. Les photos de Capa, on a récupéré très peu de photos du débarquement. Il est vraiment débarqué avec les soldats. Il est mort autour de lui. Et il a brûlé une partie des photos. On en a sauvé quelques-unes. Il y a la fameuse photo floue où on voit ce fameux soldat qui est dans l'eau complètement et qui débarque. Et lui est mort brûlé dans un accident d'hélicoptère au Vietnam. Voilà, c'est un photographe incroyable, Larry Burroughs. Et je n'ai pas cette photo, je regrette. Je me souviens, j'avais été à New York et sa femme travaillait chez Life. Et j'avais dit, on va faire un échange. Elle m'a dit, mais bien sûr. Puis bon, comme d'habitude, je ne l'ai pas fait.
Je me dis qu'il y a des gens qui travaillent un peu dans la même veine que vous, même s'ils ne font absolument pas la même photographie. Je pense par exemple au lanceur d'alerte, on pourrait dire que vous l'êtes depuis longtemps, un lanceur d'alerte, le photographe qui doit avoir une quarantaine d'années, qui s'appelle Samuel Bollendorf.
Bien sûr, très très bon photographe, je le connais bien.
Quand je vous demandais, est-ce que vous intéressiez comme ça à d'autres photographies
Je m'intéresse beaucoup à la photographie. J'avais fait l'événement, qui s'appelait 3 jours en France, où j'avais rassemblé 100 photographes pour faire un état de la France, avant 89 pour le bicentenaire de l'invention de la photographie. J'ai fait même 3P, j'avais gagné un petit peu d'argent avec mon livre La Terre du Ciel, j'avais créé une association pour aider les photographes, et on devait demander à tous les photographes de donner des photos qu'on vendait sur eBay, et ces photos servaient à financer des projets. Et d'ailleurs, il y a des photographes qui ont, comme Alain Keller, par exemple, qui a fait un très gros sujet grâce à cette bourse qu'on lui avait donnée. Donc, je m'intéresse beaucoup à la photographie. J'allais tous chaque année à Perpignan, à Arles. Depuis quelques temps, c'est vrai que je me suis plus dans ce monde de la photographie, et peut-être dans le monde du cinéma, excusez-moi, du cinéma, et aussi de l'activisme.
Voilà, avec votre fondation.
Voilà, donc j'ai plus à des réunions internationales sur le carbone ou sur comment sauver les éléphants que voilà.
Et d'ailleurs, dans un entretien que j'ai lu où vous êtes avec Samuel Bollendorf, vous dites que vous êtes un écolo perdu.
Oui, parce que. Mais je sais pas si vous imaginez quelqu'un comme moi qui s'intéresse à l'écologie depuis qu'il a 20 ans. Ce que j'ai vécu, quoi, ce que je vois et les chiffres qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a perdu 80% des insectes en France. Mais ça paraît ridicule, mais on voit bien ce que ça veut dire. Les abeilles, on a perdu 30% des pastoraux avec les pesticides. Jamais j'aurais pensé dire une chose pareille à la radio il y a une quarantaine d'années. Je pensais que ces choses-là étaient installées, qu'on irait plutôt vers une amélioration, alors qu'on va vers une destruction de la Terre. Il faut dire aussi que quand je suis né, on était 2 milliards.
Oui,
aujourd'hui,
maintenant,
on est 7,6 milliards. C'est fou de penser que dans ma vie d'homme, j'ai vu la population du monde tripler. Les derniers chiffres je vais continuer, mais
oui,
les derniers chiffres du WWF, quand même, on a perdu, écoutez bien ce chiffre, c'est fou, 60% du vivant en 40 ans. 60% du vivant. Et la sixième extinction, c'est pas quelque chose de très loin. C'est la mort de mes petits-enfants quand ils seront âgés ou de mes arrière-petits-enfants. Je ne peux pas l'accepter.
Question-là, vous n'avez pas non plus de réponse.
Ben la réponse, elle est très spirituelle. Qu'est-ce que je peux faire moi à l'intérieur? Vous savez, il y avait la marche sur le climat à Paris, on était 50 000. On était très contents d'être 50 000. Quand on sera 2 millions dans la rue à manifester, le monde changera. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué d'inverser ce système de civilisation. Et depuis que le monde est monde, l'homme a envie d'amasser. On amasse d'une façon. Et surtout, l'accélération de ces dernières années due au pétrole a changé complètement, a changé notre vie.
Donc, il faut que l'opinion publique dise stop. Que oui. Cette opinion soit suivie par les politiques et que les politiques aient le courage de résister aux lobbies, c'est cela?
Vous savez, bien sûr qu'il y a des lobbies. Mais quand vous mettez du pétrole dans votre bagnole, vous ne demandez pas d'où vient le pétrole. Si elle vient du Nigeria où les gens sont sous-payés, c'est nous qui le mettons. La viande, on sait très bien que la viande, personne ne nous oblige de consommer de la viande comme on la consomme. La viande industrielle, je le répète, et je suis content de le dire à votre micro, est en train de détruire la planète. Voilà, c'est la déforestation, c'est le transport. Il faut manger de la viande faite par des paysans qui font bien leur boulot. Non mais, c'est toujours la faute des autres, c'est pas la faute des lobbies. On vote avec son caddie. Il y a des gens qui peuvent faire plus que d'autres. Et moi, je me bats aujourd'hui pour qu'on puisse baisser de 2% la TVA sur les produits bio. Voilà.
Ouais. Alors Yann, il y a un truc que j'ai envie de vous dire qui est un petit peu basique, un petit peu bébête.
Ben, allez-y.
C'est que vous n'arrêtez pas de prendre l'avion.
Oui, c'est vrai. Je prends moins l'avion qu'avant, mais je le prends pas pour voyager, pour mes vacances, je le prends pour travailler. Il y a pas très longtemps, pour ce film Woman, j'ai été à Tahiti, filmer une plongeuse avec une baleine sous l'eau. Et je me suis aperçu que j'avais dépensé 2200 litres de kérosène pour moi tout seul. Et on était 450 dans l'avion. Voilà, et c'est vrai quand j'ai appelé mon bureau en disant j'aurais pas dû venir. Alors je cherche pas d'excuses, c'est moi qui l'ai fait et je le sais en tout cas, je le sais que j'aurais pas dû. Voilà.
En tout cas, on va en parler du film Woman qui alerte sur d'autres.
Et en même temps, l'avion permet, on va pas arrêter l'avion, ça permet de se rencontrer les uns les autres. Mais on devrait tous arrêter de prendre l'avion.
On va rester dans le ciel avec vous, mais surtout avec une voix de France Inter qui regarde l'une de vos photographies. Elle ne sait pas qui l'a faite, elle ne sait pas le lieu, elle ne sait pas ce que représente cette image. Écoutez.
Alors, vu de loin, là, on dirait des choux-fleurs alignés. Hein, mais c'est pas possible parce que y a un monsieur noir, torse nu, qui serait sur un chou-fleur et donc le chou-fleur aurait la taille du monsieur, donc c'est pas possible, donc c'est pas des chou-fleurs, c'est on va dire quoi, peut-être des sortes d'immenses sacs de gravier qui seraient entreposés les uns à côté des autres, puis lui il a l'air de se reposer. Alors est-ce qu'il aurait travaillé à extraire ce gravier? Enfin voilà, c'est vraiment une supposition, j'ai pas beaucoup d'éléments. Je vois donc ces espèces de masses blanches grises qui ont l'air de reposer sur des sacs verts, à moins que ce soit quelque chose de végétal. Je sais pas, c'est très étrange et j'aimerais bien savoir.
Merci Claire Servageant, l'auteur de cette photographie. Yann Arthus-Bertrand va donc tout vous dire. Alors où sommes-nous ?
Ça, c'est en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut plus aller à cause de Boko Haram, c'est très dangereux. Et c'est un Africain qui a vu que je faisais des photos sur des ballots de coton. C'est des ballots de coton bio, ramassés à la main. Et quand il a vu que je faisais des photos, il s'y est installé d'une façon très élégante. Et ce qui est intéressant, parce que je me suis posé, j'ai parlé avec les gens de cette usine. L'usine a fermé. L'usine n'existe plus. Ce coton bio ramassé à la main était plus cher que le coton américain importé en Côte d'Ivoire avec du coton qui est subventionné par les Américains. Tous les pays riches subventionnent, comme nous aussi, on subventionne les agricultures. Avec beaucoup de machines et avec des OGM. Donc, cette usine de coton a fermé aujourd'hui. Et ce type-là, je le connais pas, sans doute est devenu un des réfugiés. C'est-à-dire, c'est ces gens-là qui n'ont plus de travail. Eh bien voilà, si on n'arrive pas à leur donner du travail sur place, ils viennent chez nous. Parce que quand vous vivez dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de service de santé, il n'y a pas d'éducation, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie de vous voulez venir. Et aujourd'hui, ce qui a tout changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet. Et moi, je m'occupe de petite orphelinat à Brazzaville. Et les gosses, ils m'appellent sur WhatsApp ou sous Viber. Et ils ont tous Internet. Donc, ils savent très bien quel est le salaire ici, quelles sont les aides qu'on peut avoir. Et comme vous vivez là-bas et que vous vivez dans un dénuement incroyable, vous n'avez qu'une envie, c'est de profiter de ce paradis que vous voyez, exactement comme le migrant qui allait aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Donc, ce paradis incroyable, sans doute que cet Africain sur cette photo, peut-être qu'il est en France. Hein.
Peut-être qu'il est arrivé là, près de nous. Voilà. En tout cas, c'est une photo qui est extraite de La Terre vue du ciel, qui est parue aux éditions de La Martinière. Et il y a quand même un chiffre hallucinant, c'est que ce livre a été vendu à 4 millions d'exemplaires.
Pour un livre de photos, c'était incroyable. Mais j'ai eu une chance incroyable. D'abord, Hervé de La Martinière, qui est mon éditeur chéri, m'avait dit, écoute, c'est le livre de ta vie, on va faire le prix que tu veux, au format que tu veux. C'est déjà pas mal, un éditeur qui vous dit ça. Il voulait faire une exposition, et personne ne voulait de ses photos. Personne n'en voulait.
Aucun musée.
Aucun musée ne voulait des photos. Je me souviens, on avait exposé à l'an 2000, un truc avait été fait à Londres, et il voulait m'exposer dans le couloir qui allait aux chiottes, et aux toilettes.
Mais ça veut dire quoi?
Attendez, non, pas question.
Yann Arthus Bertrand, ça veut dire qu'à l'époque, vous étiez mal vu?
Non, mais
votre
c'est-à-dire...
succès faisait
non, mais
peur.
Non, le succès n'était pas encore là, mais la photo que je faisais était une photo à la géo de la carte postale. J'ai toujours été, même encore un peu aujourd'hui, considéré comme un photographe un peu entrepreneur, faisant des choses faciles. Et alors ça m'avait insupporté parce que j'avais un papier dans Le Monde qui disait ces photos n'ont aucun sens. Et moi, ce que je ne cherche qu'un truc que je cherche, c'est du sens à mes images. À côté de mes photos, il y a un pavé, une légende. Et j'avais envoyé au journaliste, je me souviens, toutes les légendes photocopiées. Et comme personne ne voulait m'exposer, on a inventé...
Pour la Terre vue du ciel.
Pour la Terre vue du ciel, on a inventé les expos dehors.
Sur les grilles du Sénat.
Sur les grilles du Sénat. Et là, d'un seul coup, le succès incroyable. 2 millions de personnes viennent voir l'exposition. Et ça se fait encore rue de Médicis. Voilà, j'étais content dernièrement
d'avoir initié ce procédé.
Voilà, exactement.
Cours, camarade. Le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Camarade, le vieux monde sent la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours. Sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade. Tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui.
Un titre inspiré des slogans de mai 68. Cours, camarade, Alex Baupin.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
À partir de la photo que nous avons regardée tout à l'heure, Yann Arthus-Bertrand, cet homme dans les balles de coton, on pourrait regarder comment, justement, de plus en plus, vous vous rapprochez de l'homme avec vos films. On pourrait parler de human, oui. On va parler de woman. Mais avant, on reste un instant sur la photographie. Comment vous travaillez pour faire des photos vues du ciel? Vous avez quelle équipe? Êtes-vous seul non, avec le conducteur de l'hélico?
Je fais beaucoup, beaucoup moins d'hélico qu'avant. Mais faut d'abord trouver des moyens financiers de le faire, parce que c'est très cher. Là, j'avais été invité par un architecte, Feyyam Oussoukro et Fakouri, qui m'avait demandé de faire un travail sur la Côte d'Ivoire. Après, on regarde où on veut aller, on va sur une carte, mais ce genre de photos comme ça, c'est 80% des photos qu'on fait, c'est la chance. Parce qu'en plus, on essaye de faire des photos qui ne soient pas des photos classiques, on essaye de trouver du graphisme, et ça, c'est... Il faut imaginer, et ça on l'a complètement oublié, c'est qu'à cette époque-là, on n'avait pas Google dans notre poche. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent, parce que dans votre téléphone, vous voyez tout de suite.
Et donc, puis en plus, aujourd'hui, vous avez le drone pour travailler.
Oui, on a le drone, qui n'est pas exactement la même chose. Je fais beaucoup de drones, mais je suis très frustré de ne pas être derrière le viseur. Parce qu'on est sur un viseur, mais c'est pas la même chose, sur un écran. Alors j'ai envie d'être en l'air, j'ai envie de regarder ce que je fais. Et puis j'ai 72 ans, je suis pas très bon dans tout ce qui est vous savez, les joysticks pour les jeux.
Non, je suis pas d'ailleurs, bon. Je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresse la technique en photographie? Est-ce que vous changez sans arrêt d'appareil photo? Est-ce que vous achetez non. le NEC plus ultra?
Alors, j'ai tendance, malheureusement, et c'est un des problèmes quand on parle de consommation, c'est qu'aujourd'hui, chaque année, des appareils où tous les 2 ans, 3 ans, il y a un truc qui sort nouveau, alors qu'avant, on gardait son appareil 20 ans, il y avait le diaph, les vitesses, manuel, c'était assez simple. Il y a la mise au point automatique qui est arrivée, qui a changé la vie énormément. Enfin, pour moi, au télé, ça a beaucoup changé de choses.
Au télé, vous voulez dire au téléobjectif?
Au téléobjectif, oui, parce que la mise au point automatique est très, très pointue et souvent meilleure que, je trouve qu'on peut la faire à l'œil, soit un animal au mouvement qui court très vite. L'appareil arrive à suivre, voilà, la mise au point. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est que vous voyez votre photo derrière sur votre écran. Et le soir, sur votre ordinateur, vous le regardez. Alors qu'avant, il fallait que j'attende 4-5 mois au rentrant à Paris pour voir ce qu'on avait fait. On faisait des Polaroid avant pour tester les lumières, quoi. C'était la photo était une démocratisation, une facilité incroyable. Maintenant, il faut toujours avoir un œil et il faut surtout savoir raconter une histoire. Et ça, j'ai l'impression que... Il y a beaucoup, beaucoup de photographes, mais les photographes qui réussissent aujourd'hui sont des photographes qui inventent une histoire. Moi, je suis très ami avec Salgado. Salgado, on est vraiment l'exemple. Il est en Amazonie en train de travailler sur les Indiens depuis 4 ans. Voilà, il y a une espèce d'investissement. Je me souviens, il avait fait le travail qui s'appelle « Le main de l'homme » dans les années 90, qui m'a beaucoup inspiré pour faire « La terre vue du ciel », où vraiment pendant 4, 5 ans, 6 ans, il avait suivi tous les gens qui travaillaient manuellement. Et c'est pas évident d'avoir une idée pareille, de travailler simplement sur les gens qui travaillaient avec leurs mains. Et c'est cette facilité de raconter une histoire complète. Les gens ne savent pas toujours très bien le faire.
Alors, donc on a l'impression que de plus en plus, vous lâchez la photographie pour aller vers le cinéma. Vous êtes réalisateur de longs métrages. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Terra, où l'on entend la voix de Vanessa Paradis.
Sous la marche de la civilisation, la nature a reculé. On tolère son existence. Les animaux sauvages sont devenus des réfugiés sur Terre. Ils ont soif, faim et peur. Ils n'auront bientôt nulle part où aller. Ils disparaissent les uns après les autres. On les remplace par tout un monde domestique qui nourrit, qui sert. Un monde utile aux hommes. En 500 générations, soit à peine 10 000 ans, tout a été domestiqué, ou presque. L'agriculture a changé le visage de la Terre. Désormais, c'est au tour de la génétique et de la chimie. 4 milliards d'années d'évolution avaient forgé la vie sur Terre. Progrès, épuisement, climat. En quelques centaines d'années seulement, l'espèce humaine a tout bouleversé. À ce rythme, à quoi ressemblera notre monde demain? Il est encore temps de réouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Voici l'histoire d'un voyage pour renouer avec notre Terre.
renouer avec notre terre, Yann Arthus.
Alors ça, c'est un texte de Michael Pithiaux avec qui je travaille beaucoup et qui est mon co-réalisateur. Nous travaillons encore ensemble en ce moment sur différents projets.
Pensez-vous qu'il est encore temps ? On a envie de vous poser la question, mais tout à l'heure, on en a parlé. Hein.
Je pense qu'autant qu'il y a de la vie, il est temps voilà, d'essayer de mieux vivre.
Alors, on a l'impression qu'à partir d'un titre qui s'appelle « 6 milliards d'autres », là, vous avez eu envie qu'il y ait des images, de la photographie ou du film, mais de la parole surtout.
C'est-à-dire que j'ai eu une panne d'hélicoptère dans les années 80, dans un petit village au Mali, et il y a des gens qui m'ont reçu pendant 3 jours. J'étais tout seul, ils ont tué une chèvre pour moi, ils m'ont raconté leur vie. Mais ils m'ont raconté leur vie en me regardant dans les yeux, en me parlant de la peur de d'être malade, que quand on est malade et qu'on est ce qu'on appelle un agriculteur de subsistance, on peut pas travailler, pas nourrir sa famille, son angoisse que ses enfants n'aient pas d'éducation. Ça m'avait beaucoup marqué, ça m'avait transpercé le cœur. Vraiment, je m'étais dit, dans mon travail, il manque la parole de l'homme. Mais de l'homme comme ça, c'est-à-dire une parole sincère. C'est pas une parole racontée par un journaliste ou par un scientifique, c'est une parole qui est directe. Et donc j'avais imaginé le projet 6 milliards d'autres. Et j'ai envoyé 5 jeunes avec une caméra, c'est un métier génial, hein, vous partez avec une caméra autour du monde, avec mon fils Baptiste qui était réalisateur, avec Sybille d'Angeval qui était mon assistante, et ils sont partis à 6, chacun de leur côté, avec des questions qu'on a travaillées ensemble.
Les mêmes questions.
Les mêmes questions sur le sens de la vie et le bonheur. Et c'était une exposition qui s'appelait 6 milliards d'autres à Paris. Et je me suis aperçu de l'addiction incroyable de nous tous sur ces paroles. Il y avait 25 heures de vidéo, il y a des gens qui voulaient voir les 25 heures de vidéo. Il faut dire que j'ai fait de la télévision, c'est l'émission Vue du Ciel sur France 2, et j'ai découvert la vidéo. Là, au départ, j'étais que présentateur, puis je me suis intéressé à la prise de vue hélicoptère, et c'était très facile pour moi de faire de la photographie aérienne comme je faisais de la photo. Alors, on a le sens du cadrage, on a le sens de la lumière. Par contre, les photographes sont très souvent des très bons réalisateurs, en tout cas sur l'image. Et donc, je suis devenu doucement un réalisateur, et j'ai fait le film Home, qui était un succès, mais j'avais besoin de ces paroles. Et après Home, j'avais envie de faire un film qui mélangeait cette photographie aérienne que j'adore faire, et ces paroles de gens qui sont incroyables. Et c'est vrai que, sur que ce soit les réfugiés, que ce soit l'homosexualité, que ce soit la guerre, c'est des choses qui m'interrogent. Et un journaliste, c'est quelqu'un qui essaie de trouver, bien sûr, je veux pas avoir la réponse, mais pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre encore aujourd'hui? Question qu'on peut se poser, comme au Moyen-Âge. Pourquoi mon pays est le 3e vendeur d'armes au monde et le pays des droits de l'homme. Pourquoi l'homosexualité est interdite et même de condamner à mort dans certains pays? Là, j'arrive pas très longtemps d'Égypte où on me disait il n'y a pas d'homosexuel en Égypte, ça n'existe pas. Voilà, il y a une espèce de déni incroyable. Les réfugiés, on en parlait tout à l'heure. J'avais envie de comprendre et d'interroger des gens. Donc, on a fait ce film Human. C'est un film que j'adore. Or, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, parce qu'on le fait avec une équipe.
Vous êtes très fier de ce film.
Oui, parce que. C'est un film qui a été démoli dans la critique en France.
Vous avez l'air soucieux de la critique. Enfin, vous avez l'air attentif à la critique.
Bah, forcément, quand on travaille, on a envie de. Mm-hmm. Quand on travaille des gens qui nous donnent de l'argent pour faire un film, on a envie qu'ils soient contents. Et c'est un film que j'adore. Vraiment, je l'ai revu il y a pas longtemps. Avec Anastasia qui réalise avec ma woman. Et on a regardé le film tous les deux. On a regardé 2h20. Et c'est incroyable l'émotion, ce que les gens nous ont dit. D'ailleurs, ce film est gratuit sur YouTube, donc vous pouvez tous aller le voir. J'essaie toujours, moi c'est vrai que je travaille avec des mécènes, des gens qui m'aident à faire ce film.
Oui,
j'essaie que mes films soient toujours, que ça soit Home, que ça soit Terra, que ça soit Planète Océan. Tous ces films sont gratuits sur YouTube. Et surtout, on envoie des DVD tous les jours dans les écoles, dans le monde entier, pour les gens qui veulent, où on envoie des liens. En fin de compte, c'est un outil pour changer le monde. Et Human, c'est vraiment pour moi... Je sais pas comment l'expliquer. Ces paroles me touchent d'une façon inouïe, et c'est un travail qui a changé ma vie, tout ça. Et d'ailleurs, il y a des gens qui...
Comment ça, il a changé votre vie?
C'est-à-dire que d'écouter ces gens parler sur le pardon, par exemple, en Israël-Palestine, on a fait des gens qui expliquent comment ils ont des enfants qui ont perdu leurs enfants dans des attentats et qui pardonnent parce qu'ils veulent pas continuer le cercle de la violence. Ça vous fait réfléchir à vous. Moi, par exemple, j'essaye de ne pas avoir de haine, de vengeance. Je pardonne assez facilement. Sans doute que ce film-là m'a appris à pardonner. Je pense que le pardon, c'est la clé de l'humanité. Hein, sinon, voilà. Mm-hmm. Alors, j'ai encore un long chemin à faire pour devenir... Vous savez, de devenir un grand photographe ou de réussir sa vie professionnelle, c'est pas très difficile. Mais réussir sa vie d'homme, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et à travers mon métier, je pense que j'essaye de réussir ma vie d'homme. Et ce graal impossible, voilà, et j'en suis très loin, mais je pense que le travail me rend meilleur. Mm-hmm. Et là, par exemple, je viens de faire un livre sur l'encyclique du pape, par exemple. Voilà.
Ah oui, oui, parlez-moi de cette histoire. Oui, ben, expliquez-moi.
Ben, c'est-à-dire que un jour, je rentre de Brazzaville et j'en ai un financement pour une maison pour les autistes de la sœur Marie-Jo à Brazzaville. On peut aller sur le site Badao, il y a des gens qui veulent nous aider, et chercher des financements. Et j'étais avec un fonds de donation d'un éditeur qui fait beaucoup de livres catholiques. Et je dis, mais pourquoi on ne ferait pas un livre sur ce fameux encyclique extraordinaire, qui est un texte révolutionnaire, très altermondialiste, sur le monde. C'est un texte qui était sorti au moment de la COP21, qui n'avait jamais été illustré. C'est un texte un peu ardu. Et donc, je l'ai lu. Et on a demandé l'autorisation au pape de le publier avec des photos qu'on a eues. Et donc, on a fait ce livre, voilà, que j'adore. Et je suis rentré dans un monde que je ne connaissais pas. J'ai fait l'émission Le Jour du Seigneur. J'ai été interrogé
par la spiritualité.
Oui, voilà. Et même ces valeurs chrétiennes qui sont de compassion, l'empathie, la gentillesse, la morale, l'éthique, c'est des valeurs essentielles, en fin de compte, qu'on ne travaille pas assez à l'école, ni même dans les familles. Alors, je ne suis pas croyant, mais ces valeurs chrétiennes, voilà, j'essaye d'en faire les miennes. J'essaye en tout cas, parce que c'est pas toujours facile, mais voilà.
C'est un grand classique de 1977, vous l'avez reconnu, Earth, Wind and Fire.
Regardez voir la photo sur France Inter.
Yann Arthus-Bertrand, parlez-moi du film qui va sortir avant la fin 2019, Woman.
Oui, ben c'est après avoir fait Human. D'abord, on travaillait avec une équipe sur un film pareil. On travaille pendant 3 ans. C'est une famille. Et quand ce film est sorti, les familles s'arrêtent. Et c'est très traumatisant. d'arrêter un travail comme ça avec des gens que vous aimez. Donc il fallait qu'on trouve quelque chose pour continuer. Mais en même temps, on avait discuté ensemble avec Anastasia qu'il fallait faire un film sur les femmes. Donc on a, dès que Human a été fini, tout de suite on a embarqué sur ce travail, bien avant Me Too et l'affaire Weinstein. On avait décidé de faire un film sur les femmes. Alors ça prend un an pour trouver l'argent, pour financer. Parce que bien sûr, on travaille avec des mécènes pour que le film soit gratuit. On est en contact avec toutes les ONG du monde qui travaillent sur les femmes. Tout l'argent du film servira pour une association qui s'appelle Women's avec un S, qui servira à faire la promotion de femmes qui veulent travailler dans les médias, femmes qui veulent devenir photographes au Nigeria, en Amérique du Sud. On pourra l'aider, j'espère qu'on pourra l'aider à travers cette association. Et le film va sortir là à Noël. Et c'est un film extrêmement concernant. Concernant, comme vous n'avez même pas idée, parce que vous pensez à votre mère, vous pensez à vos sœurs, vous pensez... Et je ne suis pas une femme, c'est surtout un film, je pense que... Je vois les femmes qui regardent ce qu'on montre aujourd'hui, l'espèce de tension, d'attention incroyable d'écouter ces femmes. Et en tout cas, moi, ça m'a fait changer d'avis sur les femmes autour de moi que j'aime.
On va écouter la bande-annonce, vous allez revenir après, Yann Arthus-Bertrand.
Je suis une femme très gentille.
I am a creative woman.
Do mujer segunda mujer.
I am a wild
woman. Me siento una mujer.
Do mukobwa ndo mugore wa gaciro.
Simple y complicado.
I'm a happy, strong, crazy woman.
Dynamique. Fierce.
Seule. Tu es fière de moi? Je me regarde. Je dis mais dis donc, mais je suis belle. Pourquoi est-ce que je doute?
Vi el inodoro lleno de un rojo carmín.
Ya me bajó.
Women have opened their eyes. The women will fight for their rights.
Non, Yann Arthus-Bertrand.
Les femmes, elles ont une résilience incroyable. Là, vous avez sous les yeux une photo d'une femme qui a été défigurée à l'acide et qu'on a filmée en Inde. C'est un énorme problème. Et elles sont joyeuses. C'est incroyable, incroyable. Elles se battent. Elle est dans un restaurant où toutes ces femmes travaillent et elles sont, elles combattent ce qui leur est arrivé et elles sont un exemple qui ne doit plus, une chose qui ne doit plus exister. Mais elles existent d'une façon assez forte et peint dans la souffrance, ce qui est assez étonnant.
Donc le film, ça sera des interviews, des portraits de femmes, comme ça, plein pot, le visage, et puis leurs paroles.
Exactement, puis avec des interséquences, qui sont des films qu'on a filmés un peu partout, des femmes au travail dans une énorme usine, une fille qui danse avec une baleine sous l'eau. Vous allez voir, je pense que ça va être un film incroyable.
Alors on va repartir pour terminer, Yann Arthus-Bertrand, autour des 1850, où Claude Arthus-Bertrand éditait des ouvrages d'exploration de la Terre. Mmh. Est-ce qu'un jour vous avez vu ça et vous vous êtes dit, voilà mon métier?
C'est drôle parce que c'est mon arrière-grand-père qui était éditeur de la Marine Royale. Vous savez, il y avait ces bateaux qui partaient avec les gens, il n'y avait pas de photos, donc les gens dessinaient sur place. Oui. Et après, c'était un peu le géo de l'époque, entre 1830 et 1840. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert ces livres. Et je me suis aperçu que mon grand-père faisait exactement la même chose que moi. Il montrait le monde. Ce qui m'intéresse, je me demande si ce que j'ai photographié aujourd'hui, voilà, mes petits-enfants pourront le voir. Alors que moi, j'ai pu voir ce qu'a fait mon grand-père.
Mais oui, bien
et
sûr.
Voilà, donc, je dis avec émotion, parce que chaque fois, je me dis peut-être que je suis à un âge avancé et que j'ai l'émotion facile, mais c'est vrai que j'ai des petits-enfants. Et je me demande si mes petits-enfants et petits-enfants pourront revoir encore des lions en liberté ou des éléphants en liberté, sous j'ai photographié sur la terre du ciel. Et certainement qu'ils le verront d'une façon différente. Voilà.
Eh bien, nous allons rester sur cette question.
Mais il est trop tard pour être pessimiste, on a besoin d'action.
Oui.
Et on a besoin d'essayer de changer le monde. Et c'est pas ridicule d'essayer de changer le monde, chacun peut le faire à sa façon.
Merci beaucoup Yann Arthus-Bertrand, au revoir.
Merci.
Alors, pour retrouver toute l'actualité de notre invité, vous allez sur la page Regardez voir avec franceinter.fr, vous trouverez les photos choisies par Yann Arthus-Bertrand, le podcast et tous les liens. Cette émission a donc été réalisée comme chaque week-end de l'été par Marco Mutel, attaché de production Thomas Lehété, à la programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Ludovic Asselot. Je vous retrouve demain à 14h pour vous raconter l'histoire d'une photo mythique, le violon d'Ingres de Man Ray. Après l'histoire de cette image, je recevrai Emmanuel Delécoté qui est la spécialiste de Man Ray en France.